Salut, ici Lucien Roy, expert de l'efficience personnelle pour mettre ton entreprise au service de ta vie riche et impactante. Et dans cette interview, j'ai le plaisir de recevoir Jean Rivière. Salut Jean.
Salut à toi, salut tout le monde.
Et donc, comme d'habitude, pourquoi est-ce que j'ai invité Jean? Donc Jean, on s'est rencontré à Cluj, en Roumanie, dans une petite immersion qu'il organisait avec Antoine Pétavin, que vous avez vu il y a 2 ou 3 semaines dans les interviews, et puis Antoine BM. Et en fait, ce qui est marrant avec Jean, c'est qu'il a un très beau business. Mais c'est un business particulier parce que c'est plutôt en tongs et à la cool, tu vois. C'est pas du tout en mode formel avec la cravate et tout. Et t'as une conception assez unique du business et je pense qu'on va pas mal en parler aujourd'hui.
Ok, donc Jean, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, moi, ça fait un moment que je travaille sur le web. J'ai commencé en 2004, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant, mais j'ai fait pas mal de choses diverses et variées pendant les premières années, de l'affiliation, du référencement, enfin, beaucoup de choses. Et je me suis vraiment mis à la création de contenu, donc pour les, enfin, qui concerne vraiment les créateurs. Donc à l'époque, c'était les blogueurs, des gens qui font des formations, des gens qui font des, qui transmettent un message aux autres. J'ai fait ça depuis 2010. Et donc, ça a commencé sous forme d'un vlog, il y a eu des vidéos, il y a eu des podcast. Maintenant, je suis revenu aussi un petit peu, enfin maintenant à l'écrit. Et au fil de ces années-là, j'ai créé pas mal de contenu. Enfin, moi, j'ai une philosophie qui est la suivante. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire ce type d'activité. Et moi, la façon que j'ai trouvée, qui est celle qui est la meilleure pour moi, qui n'est pas forcément la meilleure pour tout le monde, c'est de créer vraiment ce que moi j'appelle une petite famille en ligne. C'est-à-dire, t'as pas forcément besoin d'avoir des centaines de milliers de personnes, mais t'as des personnes qui sont vraiment impliquées, qui ont appris à te connaître au fil des années, qui ont suivi beaucoup des contenus que tu as créés, avec lesquels aussi tu as eu l'occasion d'échanger pas mal, que ça soit dans des rencontres ou ailleurs. Et ces personnes-là, elles sont vraiment, vraiment, vraiment impliquées. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu crées plus de choses pour ces personnes-là. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul produit, une seule offre ou un seul événement, une seule formation à laquelle tu vas toujours amener, sur laquelle tu vas toujours chercher à amener de nouvelles personnes en faisant de la publicité, en faisant de l'audience. Au contraire, tu as ta petite famille et tu vas créer plus de choses pour les mêmes personnes. C'est-à-dire plus d'activités, de projets. Si tu fais des formations, plus de formations. Si tu fais des événements, plus d'événements, et ainsi de suite. Ce qui fait que tu peux souvent arriver à avoir des très, très, très bons résultats avec une petite famille en ligne comme ça, une petite audience, à condition d'avoir plus de choses à proposer aux mêmes personnes. C'est-à-dire, soit tu as plus d'audience qui vient tout le temps, soit tu as plus d'offres qui viennent tout le temps. Voilà. Et donc, moi, c'est la voie que j'ai choisie. J'en ai beaucoup parlé de cette voie-là au fil des années. Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont repris ce modèle-là et qui l'ont adapté un petit peu à leur sauce. Et voilà. Et donc aujourd'hui, plus du texte, mais finalement sur les mêmes sujets. On parle aussi pas mal. J'ai parlé aussi pas mal. C'est un peu par période, mais d'efficacité, d'organisation. Moi, je suis convaincu que c'est ce qui manque le plus aux personnes qui se lancent, et c'est souvent pas ce que les gens veulent. C'est-à-dire que de prime abord, beaucoup de gens se disent, moi j'ai besoin d'une technique pour trouver 5 clients de plus, pour avoir plus d'emails dans ma mailing list, pour ceci. Mais finalement, le vrai truc duquel ils ont souvent le plus besoin, c'est savoir comment s'organiser, parce que bien s'organiser, ça te permet de créer plus, de créer mieux, et d'avoir un truc qui, enfin, c'est la clé à tout en fait. Et je sais que tu parles de ça aussi.
Ben oui, c'est vrai que moi je le constate beaucoup. Enfin, tous les clients que j'ai, c'est des gens qui ont un business qui est sympa, tu vois, ça marche et tout, mais leur limitation, ça reste toujours le temps, parce que finalement, ils sont un peu embarqués dans le truc, ils font plein de choses qui sont pas très utiles, même s'ils s'en rendent pas forcément compte au début, et du coup, forcément, ça leur complique la vie, et puis ça rend leur business beaucoup moins sympa, tu vois, parce que les mecs, ils bossent tout le temps, ils peuvent jamais s'arrêter, ils sont un peu esclaves de leurs clients, et du coup, forcément, c'est pas pour ça que tu te lances dans le business à la base, en général. Et justement, il y a un truc dont j'aime bien leur parler, c'est le concept d'être le dictateur de son temps. Ça veut dire que finalement, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ton temps, c'est toi qui décides de comment tu vas l'utiliser, parce que c'est la ressource la plus précieuse que tu as, et du coup, tu peux pas laisser n'importe qui en faire ce qu'il veut. Et toi, je trouve que c'est un concept que tu utilises beaucoup, tu vois, que tu as vraiment même poussé à l'extrême, parce que tu souhaites, dans ton quotidien, éliminer tout ce qui te plaît pas. Et je trouve que c'est un but qui est vachement sympa, parce que finalement, ça amène plus de satisfaction dans ton quotidien, plus de plaisir, et je suis convaincu que c'est ça aussi qui te permet de beaucoup créer sans finir en burn-out comme certains peuvent finir. Et notamment, il y a des trucs que tu n'aimes pas, c'est les dates bloquées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce truc, de comment tu finis par supprimer tout ce qui ne te plaît pas? Comment tu gères ce truc-là?
Alors, oui, effectivement, moi, j'aime pas trop avoir, enfin, de temps en temps, on en a, comme on l'a fait là, par exemple, pour faire un, bah, de temps en temps, t'es obligé pour un rendez-vous. Pareil, si tu dois aller chez le médecin ou n'importe quoi, t'es obligé d'avoir un rendez-vous. Mais en tout cas, j'essaye de les limiter au maximum, c'est-à-dire de pas avoir de réunions, de choses. Moi, tu sais, j'aime beaucoup travailler, ça, c'est pas pour tout le monde, hein, mais moi, j'aime beaucoup travailler, seul, c'est-à-dire sans avoir une grosse équipe, tout ça, sans avoir beaucoup de gens qui sont impliqués. Pourquoi? Parce que, moi, c'était mon but au tout départ. C'est-à-dire qu'au tout départ, mon objectif, c'était même pas de gagner de l'argent, parce qu'au début je pensais pas que j'en étais capable, enfin c'était pas le projet en fait. Mon seul projet, mon premier projet quand je me suis lancé, c'était de pas être salarié, donc de pas avoir quelqu'un derrière moi, de pas avoir des horaires fixes. Moi j'ai vécu une enfance qui était assez stricte, donc j'avais envie un peu, je pense qu'on va toujours chercher quelque chose qu'on n'a pas eu autrefois, et j'avais vraiment besoin de liberté, je voulais qu'on me foute la paix, je voulais être voilà, tu vois, que je fais de mal à personne mais qu'on vienne pas m'emmerder. Et c'était un peu le projet, et c'est vrai que j'ai vraiment lutté pour garder ça. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle Essentialism en anglais, enfin qui est un bouquin en anglais et qui parle de plein de choses fascinantes, dont l'une de ces choses-là, c'est que quand tu sais, on atteint souvent un plateau quand on réussit un projet ou un projet d'entreprise ou n'importe quoi. Et souvent ce plateau-là, on l'atteint parce que c'est ce qu'il dit dans le bouquin. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que une fois qu'on a réussi son truc ou son projet, le contexte qui nous a permis de le réussir n'existe plus. C'est-à-dire que souvent quand tu démarres, t'es pas sollicité parce que tu connais personne, parce que tu démarres ton truc, t'es tout seul dans ta chambre ou dans ton salon ou dans ton bureau ou peu importe. Et puis au fur et à mesure, tu vas avoir de plus en plus de sollicitations, tu vas travailler avec de plus en plus de monde, tu vas avoir un emploi du temps qui est de plus en plus chargé. Et en fait, du coup, le contexte qui t'a permis, il y a aussi l'envie que tu avais au début, tu vois, parce que tu en avais vraiment besoin, tu étais à fond, après peut-être que tu te relâches un petit peu, et le contexte qui t'a permis de réussir, parfois, bah, il est plus le même après, et on peut vite effectivement se... Tu sais, il y a aussi le problème qu'on peut avoir quand on a un business, c'est les rêves de grandeur, et je pense qu'on en a tous au bout d'un moment, c'est-à-dire surtout quand on, dans notre famille, dans nos proches, dans les gens qu'on côtoie. Je sais pas, souvent, la première question qu'on te pose quand tu dis que t'es entrepreneur, c'est combien t'as d'employés, combien t'as de salariés, parce que c'est pas poli de demander aux gens combien ils gagnent. Donc, du coup, les gens essaient quand même de jauger, tu vois, de savoir, voilà, de te situer un peu. Et donc, ils demandent combien t'as d'employés. Et puis, quand tu dis que tu travailles tout seul, ils pensent que, je sais pas, ton truc, c'est un tout petit machin et que tu fais, je sais pas, t'as un magasin de je sais pas quoi. Enfin, un tout petit truc, en fait. Et en fait, c'est un peu frustrant quand t'as réussi à créer un beau truc et qu'en fait, t'es tout seul. Et donc, du coup, souvent, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Moi, ça m'est arrivé sur d'autres projets. Tu te mets à dépenser tout ton argent pour avoir des beaux locaux. Tu te mets à prendre des employés parce que, tu vois, des employés, on peut en avoir besoin, mais desquels t'as pas forcément besoin, juste parce que ça crée un truc, tu vois, ça fait un truc duquel t'es fier. Et puis après, systématiquement, tu te rends compte 6 mois, 1 an après, que t'es plus dans le contexte qui t'a permis de réussir, que t'as plus le temps parce que t'es obligé de faire du babysitting et que t'as un emploi du temps qui est absolument surchargé, que t'as plus la liberté que t'avais avant. Après, il y a plein de façons de faire du business. Moi, je porte absolument aucun jugement. J'ai des amis qui travaillent de façon très, très, très différente de moi, qui aiment gérer des équipes, qui aiment gérer des projets avec des équipes. Et c'est leur truc, c'est dans leur ADN. Mais moi, j'ai fait ce boulot-là. Enfin, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Enfin, je considère plus comme un indépendant, en fait, qu'un entrepreneur. Mais je me suis lancé quand même dans l'entrepreneuriat pour être libre, en fait, pour avoir un truc souple, agile, que je puisse emmener en voyage, qui me prennent du temps quand j'ai envie. C'est même pas que ça me prenne le moins de temps possible, c'est que l'essentiel prenne le moins de temps possible. C'est-à-dire que, tu vois, même dans les journées qui sont un peu, t'as des projets perso, ou bien tu veux aller visiter des trucs ou faire des choses avec tes amis, bah tu peux quand même faire l'essentiel en un minimum de temps. Et puis les jours où t'as envie d'en faire plus parce que ça te plaît, en fait, bah là tu peux en faire plus, mais même si t'en fais moins, ça va pas te, tu vois, ça va pas remettre en cause le fait que tu puisses gagner ta vie avec, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça la philosophie derrière. Donc c'est vrai que c'est vraiment basé, c'est forcé, c'est pas pour tout le monde, mais des gens qui sont peut-être plus introvertis, qui aiment bien travailler avec eux-mêmes, qui aiment bien, je sais pas, tu vois, rentrer dans des... Souvent les créateurs, les créatifs sont comme ça, ils aiment bien travailler comme ça souvent, et c'est rare qu'on ait à la fois le profil, c'est rare mais ça existe, et c'est un peu des génies ces gens-là, mais d'avoir à la fois le profil d'un créatif, d'être bon là-dedans, et à la fois d'être bon pour gérer des équipes, pour gérer des calendriers, pour gérer les problèmes de tout le monde et tout, quoi. Et moi, ça, c'est pas mon truc, quoi.
Mais c'est vrai que ça me semble hyper important ce que tu as dit en fait, et c'est un des enjeux que j'essaye tout de suite de mettre en place avec tout le monde, c'est le truc de pouvoir terminer ta journée le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai que ça te donne une sérénité de dingue de savoir que, en fait, aujourd'hui, si tu bosses 1 heure, et bah, tu auras terminé ta journée de travail, en tout cas la journée minimale. Et puis après, bah, comme tu dis, si tu as envie d'en faire plus, banco, vas-y, amuse-toi. Mais au moins, le jour où tu n'as pas envie, même si tu as la grippe ou je sais pas quoi, tu sais qu'en 1 heure maximum, business est à flot, tu auras des nouveaux clients, tu vas pas avoir du mal à bouffer à la fin du mois, quoi.
Bah ouais, c'est important parce que ça te donne une. Tu vois, si t'es tout le temps en train de courir, 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 il y a forcément un moment où tu t'épuises et on l'a vu chez plein, plein, plein de gens. Moi, j'en ai vu passer dans toutes les années où j'étais sur le web, des gens super talentueux parfois, qui ont fait des choses extraordinaires parfois en très, très, très peu de temps et après ils ont pété un plomb en fait. Enfin, ils ont, je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils ont disparu. Ça s'explique pas trop. Enfin, si, ça s'explique par ça, c'est que tu pètes un plomb. Et après, quand il y a aussi le problème quand t'es occupé toute la journée en fait, tu peux plus prendre de recul. Tu peux plus. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent sont plus des créateurs ou sont un peu dans tous les domaines, mais pour quelqu'un qui est créateur, donc qui crée du contenu ou un créatif, tu as besoin d'avoir du temps pour toi, du temps de calme, du temps de, tu vois, de repos, où ton cerveau, ton intelligence va faire des liens entre toutes les choses que tu as lues, que tu as apprises. C'est-à-dire, aujourd'hui, on consomme une quantité de contenu complètement phénoménale en fait en une journée, entre les vidéos qu'on regarde, entre les trucs qu'on lit sur les réseaux sociaux, entre les discussions qu'on a peut-être avec des collègues ou avec des amis, et tu te rends compte finalement que si t'as pas de temps pour faire macérer tout ça et pour le faire reposer, c'est comme quand tu fais un gâteau, tu mets de la levure pour que ça monte, il faut du temps, il faut laisser reposer le truc. Ou pour les crêpes, je sais pas, j'y connais rien en cuisine, mais il faut du temps, ouais. Et ce temps-là, si tu l'as pas, bah, ça va être un peu, c'est beaucoup plus difficile, t'es fatigué, t'es moins performant. Moi, j'aime beaucoup le fait d'en faire peu, mais tu vois, que le minimum soit peu. Moi, j'ai beaucoup lutté pendant pas mal
Et puis de
d'années
savoir que ça
pour
compte aussi,
essayer.
quoi.
Ouais.
J'ai...
Bah ouais, vas-y, 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 vas-y.
Ouais, je dis aussi ce que j'aime bien aussi, un peu comme toi, c'est savoir qu'en fait ce que je fais, ça compte, savoir que je suis pas en train de me débattre dans une mer déchaînée où je vais couler quoi qu'il arrive, en fait. C'est juste que je fais des actions qui sont vraiment rentables, tu vois, pas les petits trucs qui servent à rien et que tout le monde fait tout le temps, genre le mec qui remet à jour sa photo de profil Facebook tous les 3 jours, tu vois.
Bah pour ça, ouais, c'est vrai que souvent, enfin le gros risque, c'est que je pense que beaucoup de gens, enfin on est tous un peu comme ça, on cherche à, tu sais, on culpabilise quand on n'a pas avancé en fait. C'est-à-dire si t'as rien fait, t'as une sorte de nuage noir au-dessus de la tête, tu te dis j'ai rien foutu de la journée, c'est une honte, je me sens pas bien. Donc du coup t'as besoin de faire, et en fait surtout quand on a été salarié avant, mais même l'école, l'université nous apprennent à faire un peu ça aussi. C'est-à-dire que on a l'impression que parce qu'on est occupé, parce qu'on s'agite en fait, on mérite un résultat. Et donc, du coup, pour se sentir mieux, peut-être un peu moins coupable de rien avoir foutu, on va s'agiter, en fait. Et donc, on fait des choses qui peuvent avoir un tout petit impact, mais qui sont pas les choses les plus importantes. Moi, j'aime bien vraiment séparer les deux. C'est-à-dire, j'ai une liste technique et stratégie, enfin, que j'appelais une liste de bugs à l'époque, parce que c'est les bugs de ta vie, les bugs de ton business, les bugs de ton site, les bugs de tout, et qui s'appelle aujourd'hui une liste technique et stratégie. En fait, quand il y a des idées, ou quand j'ai envie de changer la photo de profil, justement, ou quand il y a un truc à explorer, je le note dedans. Mais ça, je le fais que, genre, l'après-midi, ou si j'ai le temps, tu sais, c'est les moments où j'ai envie de bosser, j'ai rien d'autre à faire, tu vois, mais c'est pas le truc à faire pour la journée, tu vois, et je le fais pas avant, en fait, tu vois. Et du coup, rien que ça, ça te permet de, bah, ça te permet de, déjà, t'as la satisfaction d'avoir fait bah, ce qui te permet de gagner ta vie, quoi.
Ouais, du coup, toi, tu as un peu deux listes où tu as vraiment une partie de ce qui compte vraiment pour ton business. Et j'ai l'impression que tu aimes bien la récurrence, enfin, tu aimes bien les habitudes. Tu crées pas mal de contenu de manière régulière, puis même des formations, on pourra en parler aussi. Et puis après, tu as une autre liste des trucs un peu moins essentiels qui, voilà, si le moment où tu as envie et l'enthousiasme de les faire, tu les fais.
Voilà, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup les listes hebdomadaires, ça fait des années que je travaille comme ça, c'est-à-dire que, bon, après ça a un peu changé selon les moments, selon les projets sur lesquels j'étais, mais j'ai quand même toujours un peu une base de trucs qui sont soit tous les jours pareils, soit tous les lundis pareils, tous les mardis pareils, etc.
OK.
Et c'est ça qui m'a permis de faire les plus grosses choses sans travailler forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup en temps. Alors attends, je te coupe juste, peut-être tu couperas. J'ai du bruit de machine à laver, je sais pas si tu entends. Je suis désolé, je suis complètement désolé. Je ferme le, attends, j'éteins le truc, j'arrive. Tu
Il n'y a pas de
allô?
souci. Yes, j'ai entendu, t'inquiète. C'est les aléas du direct.
Ah, bah. Voilà, c'est bon. Désolé. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que moi je pense que, enfin moi c'est ma méthode. Après chacun a sa méthode, mais c'est vraiment de te demander pour que mon business tourne, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse chaque semaine. Donc pour un créateur de contenu, qu'est-ce qu'il faudrait que les gens voient? Peut-être que tous les lundis, il faudrait qu'ils voient un article, tous les mardis une vidéo, tous les mercredis que tu fasses une offre. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, ça dépend de ton business, ça dépend des méthodologies que tu utilises aussi en marketing ou comment tu t'organises. Si tu fais de la vidéo, si tu fais plus du texte, plus des podcasts, j'en sais rien. Peut-être que si tu fais des interviews comme celle-là, tous les mercredis, tu vas chercher une nouvelle personne pour ton prochain interview, par exemple. Et donc, du coup, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut que les gens voient. Moi, j'appelle ça.
C'est vrai que tout cet aspect routine, en fait, je trouve qu'il y a un peu, il y a toujours deux idéologies là-dedans. Il y a soit les mecs qui rassemblent tout d'un coup, du genre, pendant une semaine, je fais 200 interviews, puis comme ça, j'en ai pour 4 ans, ou les gens qui se disent justement un peu plus en mode artisan, toutes les semaines, je fais une nouvelle interview, puis je vais la publier, puis ça va se passer, puis tous les jours, j'écris un nouvel email, par exemple, et je fais ça de manière très régulière.
Moi, j'ai fait un peu des deux. J'ai expérimenté aussi l'autre. Le problème, je pense que ça dépend des personnalités de chacun, c'est que si j'en fais trop d'un coup, ça devient un peu, pour moi, ça devient un peu mécanique. C'est-à-dire que j'ai tendance à plus trop avoir la passion, tu vois, au 20e truc que j'ai fait au bout d'un moment, tu vois.
Ouais, c'est clair, je ressens un peu
c'est vrai
truc.
Que... Ouais.
Quand j'essaie de faire 10 vidéos par jour, ça va bien, ça va bien d'une semaine, tu vois, mais après, c'est mort.
Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Après, l'équilibre, il dépend du format, il dépend de ce que tu fais, tout ça. Mais moi, autant je suis à fond pour, en tout cas pour moi, pour faire plus de la même chose à la suite. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais des vidéos, c'est plus facile pour moi d'en faire 3 d'un coup que d'en faire une un jour, une deuxième l'autre jour, une troisième. Tu sais, faut ressortir le matos, installer, faut se mettre dans l'état d'esprit. Alors que quand tu viens d'en terminer une, il n'y a rien de plus facile. Tu changes de t-shirt si tu as envie que, tu vois, de pas avoir les mêmes vêtements sur toutes tes vidéos et le truc, il est plié. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour l'écriture. Maintenant, en faire 20 à la suite, moi j'aurais, tu vois, il y a un moment où ça deviendrait un petit peu mécanique peut-être. Mais il y a un juste milieu, je pense, il y a un équilibre à trouver pour chacun.
C'est clair. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un truc qui est, je trouve, est intéressant. C'est un peu de, tu vois, parfois, enfin, tu parlais des rêves de grandeur. Et parfois, on perd un peu notre intention originelle où il y a plein de gens qui commencent juste pour être libres et puis finalement, un peu par ego aussi, puis pour plein de raisons, ils décident de faire un truc qui leur convient pas forcément trop pour faire un business énorme et tout, alors que c'est peut-être pas leur truc. Toi, comment t'as fait pour garder ce truc-là, pour garder cette intention et puis aujourd'hui, tu vois, t'as pas de salarié, t'as pas trop de contraintes. Comment tu fais pour garder ce focus et dire en fait je suis sûr que c'est ça que je veux et je suis pas malheureux parce que j'ai pas une énorme équipe et 1 million d'euros par mois qui tombe sur mon compte.
Alors moi c'est quelque chose que je veux pas parce que j'aime beaucoup travailler comme je travaille, mais après moi je pense que c'est important de se fixer des critères dans ce qu'on veut. C'est-à-dire par exemple si tu fais de l'entrepreneuriat et que ton seul but c'est de gagner le plus d'argent possible, tu l'atteindras jamais ton but, donc tu vas toujours être malheureux. Je veux dire, il y aura toujours un Bill Gates ou un Jeff Bezos derrière, enfin tu vois, le truc est sans fin en fait. Par contre, si tu te dis je veux faire du mieux que je peux avec ces critères là c'est-à-dire, tu vois, les critères ils sont différents pour chacun, en parlant de tel sujet qui me passionne, en travaillant tout seul ou avec ma femme, mon mari, si tu veux travailler comme ça, ou en travaillant avec ton pote, ton collègue, ou tu vois, en travaillant moins de temps d'heures par semaine, ou en travaillant que le matin. C'est-à-dire, tu te fixes des critères et t'essayes de. Ces critères-là, en fait, c'est même pas des contraintes, en fait. C'est ton rêve, c'est ce que t'as envie de vivre, en fait. Et tu te dis, ce rêve-là, je vais le pousser au maximum. C'est-à-dire, je vais regarder le maximum du potentiel que je peux, enfin, jusqu'où on peut aller avec ce truc-là, quoi. Mais si t'as pas de critères, de trucs qui t'indiquent ce que tu veux, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, tu gagneras jamais. Tu auras toujours le sentiment de pas avoir réussi, ce qui est un peu frustrant, en fait. Tu vis finalement après dans la frustration tout le temps. Ça t'empêche pas d'agrandir le truc une fois que tu l'as atteint. Tu vois, je pense qu'on a tous besoin, moi le premier, d'être dans un projet, de jamais avoir fini, tu vois, toujours être en recherche quelque part, mais ça peut faire du bien de se dire, tu vois, mais de dessiner sa vie idéale, genre c'est quoi toi ta vie idéale, quoi, à quelle heure tu te lèves le matin, avec qui tu passes la journée, où est-ce que t'habites, est-ce que t'as du stress. Il y a des gens qui adorent le stress, moi j'ai des amis comme ça qui adorent être dans le combat, dans la lutte perpétuelle, dans l'urgence, dans l'immédiateté. Moi c'est pas mon cas, j'aime bien que les trucs ils soient posés. Donc est-ce que t'as besoin de l'autre, est-ce que t'as besoin de ça, tu vois, enfin je sais pas, quelle est ta vie idéale, quelle est la vie que tu veux construire pour toi en fait. Et après, le deuxième objectif, c'est de la rendre possible. Et le troisième, c'est d'aller au meilleur que tu puisses, au maximum du potentiel que tu pourrais développer autour de ça, d'aller le plus loin possible là-dedans, quoi. Mais c'est ça. Après, il faut faire attention, effectivement. Je pense que la plus grosse cause pour laquelle on perd un peu ça, ou on perd un peu, tu vois, on dévie un peu de son rêve initial, c'est de trop regarder ce que font les autres. C'est même pas de trop regarder, c'est de se dire, ouais, mais machin, tu vois, il est meilleur que moi, donc faut que je passe comme lui et tout, quoi. Et au final, t'as la vie d'un autre. En fait, tu vas te mettre à vivre la vie d'un autre, tu connais pas son contexte, tu sais pas pourquoi il a fait ces choix-là, c'est peut-être quelqu'un qui a d'autres passions, c'est peut-être quelqu'un qui a d'autres besoins. Comme je disais tout à l'heure, souvent, moi je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs, on a une raison autre que l'argent de faire ça. On a souvent quelque chose qu'on veut compenser par rapport à ce qu'on a vécu avant, parfois dans l'enfance, parfois dans d'autres choses, j'en sais rien. Tu vois beaucoup de gens, par exemple, regarde, tu prends les personnes par exemple qui sont le plus en mode gros argent et tout, c'est souvent des personnes parmi celles qui ont très bien réussi là-dedans, qui viennent de milieux plutôt défavorisés et donc qui avaient envie de compenser ça et de prouver en fait à leur environnement de départ, aux gens qui les ont entourés avant, parce que peut-être des gens qui se sont fait même, et ils le disent, tu vois, je raconte pas, ça sort pas d'un chapeau, c'est qu'ils le disent, ces gens souvent, qu'ils se sont fait reprocher d'être des incapables, machin, et ils voulaient donner la preuve que non, en fait, ils sont capables, et nous donner la preuve la plus flamboyante possible. Donc, en fait, on vient tous de quelque part. Donc, tu peux pas prendre les rêves de quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, même s'il y a quelqu'un qui peut être meilleur que toi sur un point, sur un autre, tu vas pas te mettre à vivre la même vie que ce mec ou que cette nana, parce que ça ressemble à rien. Et donc, après, tu te retrouves dans la vie de quelqu'un d'autre, et tu te rends compte que, tout n'est pas top non plus, et que c'était pas forcément ce que tu voulais. Pour ça, je pense que c'est vraiment important. Il y avait Frank Kern à l'époque qui était quelqu'un qui en fait toujours aux États-Unis, qui faisait des contenus sur le marketing, qui disait ça, qui proposait ça dans une conférence, d'imaginer qu'un génie sort d'une bouteille, en fait, et te permettre de construire ta... Ah oui, c'était super intéressant, ça. Un génie sort d'une bouteille et te propose de construire ta vie idéale. Tu vois, genre tout ce que tu veux dans ta vie, à quelle heure tu te lèves, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, avec qui tu es, ce que tu fais de tes journées, mais à une seule condition, c'est que la même journée se répète tous les jours de ta vie. Ouais. Et c'est marrant parce que beaucoup de gens choisiraient pas les mêmes choses, tu vois. Genre moi, si on me demande, tu as tout ce que tu veux, tu vas choisir peut-être des trucs un peu exubérants, un peu, grosses fêtes, trucs un peu n'importe quoi que t'as jamais pu faire dans ta vie. Mais si on te dit ouais, ça se répète tous les jours, tu choisirais pas forcément les mêmes choses non plus. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est vrai qu'avec Antoine Pétavant, on en avait parlé aussi de cette fameuse journée idéale. Et aujourd'hui, t'as la sensation de vivre cette journée idéale dans ton quotidien, ou tu te dis qu'il y a encore des trucs que tu peux améliorer ?
Il y a toujours des trucs sur... Enfin, moi, je suis toujours en recherche. C'est-à-dire que je suis pas bien si je cherche pas des trucs à améliorer, si je suis pas en recherche. Mais quand même, globalement, tu vois, j'ai des journées qui me conviennent. Moi, je mets pas de réveil le matin, tu vois. Parfois, je me lève plus tôt, parfois plus tard. Et puis, par contre, la première chose que je fais quand je me lève, c'est de faire mon boulot. Souvent, j'ai hâte de le faire, en fait. Enfin, c'est des trucs que j'aime bien faire, sinon, je ferais pas ça. Et donc, je fais ça. Et puis, c'est très simple, en fait, hein. Après, le reste de la journée, il est plus ou moins libre. C'est-à-dire que parfois je bossais plus parce que j'ai envie, parfois je vais aller me balader, parfois je vais aller voir des amis, enfin hors confinement et tout, tu vois. Mais c'est quand même relativement simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté dans les journées, en fait. Il n'y a pas vraiment un programme qui est toujours pareil. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de variété. C'est pour ça aussi que j'ai pas mal voyagé. Là, j'étais parti dans un modèle avant toute l'histoire de virus, de ce que j'avais fait d'ailleurs avant, à une époque, pendant un bout de temps, c'était de vivre en Airbnb et donc de bouger toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Mais bon, là, ça va être un petit peu difficile cette année. Enfin, ça va pas être l'idéal. Donc, ouais, je vais peut-être changer un peu ce projet-là. Mais j'ai besoin de variété, mais en même temps, d'avoir vraiment cette stabilité où le point central de ta journée, c'est ce que tu crées. Et puis, je passe aujourd'hui du temps, comme je faisais avant, à lire pas mal et à écrire. Mais en fait, ça, c'est libre. C'est pas vraiment du boulot. C'est pas un truc que je me force à faire le matin. C'est genre, je bouquine, j'ai une idée, machin, bam, je fais un article, tu vois. Mais il y a des jours où je le fais pas. Il y a des jours où je le fais beaucoup. Et donc, du coup, ça fait une moyenne après, tu vois. Mais ça, c'est plus le truc que je fais en mode vraiment spontané, en fait, si tu veux. Et après, l'idée, c'est qu'il y ait quand même assez de contenu pour qu'il puisse être publié régulièrement après sur les mails ou ailleurs, quoi. Voilà.
Je me rappelle qu'à Cluj, on avait parlé d'un truc. C'était que finalement, à un moment, tu avais un peu perdu la flamme, tu vois. Et ça, je pense que c'est un sujet qui va être de plus en plus fréquent chez les entrepreneurs, notamment du web, parce qu'il y en a ça fait de plus en plus longtemps que ça existe. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui ont fait ça depuis longtemps. Et toi, après 15 ans, ça peut sembler normal, tu vois, que la plupart des gens changent de carrière, je sais pas, tous les 3 ou 4 ans. Toi, au bout de 15 ans, tu y es encore. Mais comment aujourd'hui, tu fais pour justement garder cette motivation, cette flamme et ton envie d'avancer, de toujours tester de nouvelles choses, de toujours créer et justement de continuer à alimenter cette famille du web que tu as créée?
Alors moi j'ai tout changé plein de fois en fait, mais j'ai toujours continué quand même. C'est-à-dire que je voulais même changer de thématique à un moment, mais tu te rends compte qu'en fait tu connais rien et que le truc duquel t'as parlé pendant 10 ans, tu serais peut-être mieux pour parler de ça, tu vois ce que
ouais,
je veux dire.
Clair.
Mais j'ai toujours voulu changer de format, changer de truc, parce que, enfin c'était un peu bête, mais en fait c'est juste parce que moi j'ai besoin d'avoir un chantier en progrès, tu vois. Sinon je m'ennuie quoi. Enfin j'ai vraiment besoin d'avoir un truc où je sais pas si je vais être capable de le faire et puis essayer trouver des solutions, tout ça. J'aime bien construire, tu sais, j'ai un peu la mentalité d'un ingénieur, quoi. Trouver des solutions, j'aime bien les problèmes, tu vois, à résoudre. Moi, j'aime bien qu'on m'en donne, j'aime bien ça. Mais du coup, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il n'y a quand même pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas grand-chose dans lesquelles tu es bon. Je pense qu'on est tous pareils. Quand tu as bossé pendant un certain nombre d'années ou que tu as mis un certain nombre d'efforts sur une, deux, trois choses, bah, tu seras toujours bien meilleur là-dedans que sur le reste, en fait. Donc, il y a un moment où, en fait, on peut vite croire qu'on. Mais je pense que ça, c'est une maladie un peu qu'ont les entrepreneurs, qu'on réussit un truc, c'est que tu dis j'ai réussi ça, en fait ça veut dire je peux tout réussir, tu sais, tu te prends un peu pour une sorte de génie ou quoi, parce que souvent quand t'as réussi un truc, mais que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quoi en fait, hein, c'est le cas aussi parfois des gens qui ont réussi des concours ou des examens super difficiles ou qui, tu vois, et qui vont se dire ouais bah j'ai réussi ça, du coup je peux tout faire quoi, et puis après ils s'attaquent à un truc qui a rien à voir et là ils se rendent compte qu'en fait non quoi. Et on a tendance parfois à croire qu'on est bon en tout parce qu'on a réussi un truc, faire attention à ça. Et en fait, souvent, on revient au truc dans lequel on est bon, puis c'est souvent aussi ce qui nous plaît. Je pense que c'est lié dans le sens où, pour quelque chose t'apporte du plaisir, faut être bon dedans, en fait. Enfin, je veux dire, c'est l'un des critères, tu vois. Évidemment, faut que t'aimes ça parce que ça te plaît, tu vois. Tu vas pas, je sais pas, quelqu'un qui est un artiste, tu vas pas lui faire faire de la compta, il va pas, ça va pas lui plaire. Mais je pense qu'on apprécie, tu vois, quand il y a un truc, t'as quand même des bonnes chances que le machin que tu crées, il soit bien. Ça t'apporte quand même un plaisir que tu trouveras pas dans quelque chose que tu dois réapprendre du début, en fait. Parce que t'as une certaine aisance. Je sais pas, pareil, quand tu joues de la musique, si t'es bon au piano, bah, tu vas avoir plus de plaisir à jouer que quelqu'un qui fait 3 notes, ça lui demande un effort fou, il sait pas où appuyer, tout ça, quoi. Enfin, t'as un plaisir dans cette fluidité-là où tu sais que ça a donné un truc, au moins à peu près propre, quoi. Et donc, du coup, je pense que finalement, tu reviens à ce que tu sais faire le mieux, de façon naturelle, quoi. Et, après, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui ont tendance à partir, tu vois, à monter un truc, le revendre, ou bien, enfin, nous, c'est pas très redondable dans le business parce que c'est un peu basé autour de notre personnalité dans ce qu'on fait, mais ou bien le sous-traiter un petit peu, passer à un autre, à un autre, à un autre. Je sais pas, moi j'aime bien rester dans le même truc parce que c'est peut-être plus simple aussi, mais je me suis beaucoup 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 posé de questions au fil des mois, des années, et peut-être que je m'en suis posé trop en fait, mais je regrette pas parce que ça m'a fait faire plein de découvertes, quoi. Et ça donne toujours aussi des idées pour faire du contenu quand tu découvres des choses. Enfin, je pense que le moment où tu t'emmerdes, c'est quand tu parles des mêmes trucs pendant 15 ans en fait, tu vois. Ouais. Si tu parles du même machin exact pendant 15 ans, enfin, je veux dire, il y a un moment, je pense que t'en as marre parce que ça devient machinal, c'est exactement les mêmes choses, les mêmes explications. Et il faut, enfin, dans les métiers comme les nôtres, il faut que tu fasses des découvertes tout le temps, en fait. Donc, ça veut dire aussi parfois un peu secouer tes certitudes, voir qu'il y a des choses desquelles t'étais convaincu, qui étaient pas forcément les meilleures ou qui peuvent être améliorées. Essayer d'explorer soit dans tes problèmes ou dans les problèmes de tes clients pour voir s'il y a pas des nouvelles solutions qui existent ou que tu pourrais inventer. Enfin, être toujours curieux, en fait, tu vois, rester curieux, quoi. Et en même temps, ça occupe,
ouais,
quoi. Et puis.
Ouais, puis c'est vrai que j'ai l'impression souvent, peut-être ce qui fait qu'on n'ose pas trop sortir ou qu'on reste dans les mêmes choses et qu'on finit par s'ennuyer, c'est qu'on a l'impression que notre audience attend quelque chose de nous, alors que globalement, j'ai l'impression que c'est pas forcément hyper vrai. J'ai l'impression que quand le créateur s'amuse, bon, forcément, il va y avoir un petit peu de turnover dans les gens. Il y a des gens qui vont arrêter de t'écouter, d'autres qui vont commencer. Mais quand même, globalement, les gens aiment surtout te voir prendre du plaisir. Et ça a aussi cette valeur d'inspiration, de se dire, putain, je sais pas, tu vois, Jean, il a fait un jour une formation là-dessus, sur le marketing. Puis le lendemain, il nous fait une formation sur comment faire le ménage. Puis ensuite, une formation sur comment être efficace. Et du coup, je pense que ça a aussi cette vertu-là de savoir se renouveler et de pas forcément trop coller aux attentes qu'on pense que les autres ont sur nous, alors qu'ils les ont pas forcément. Ça peut aider à justement garder cette variété au quotidien et puis pas finir en mode monotone total et faire tout le temps la même chose.
Bah, je pense qu'il y a un équilibre en fait entre les choses que les gens veulent vraiment, c'est-à-dire, tu sais, les gens ils sont là pour ça en fait, enfin, que ça soit des formations ou des contenus, hein, pour quelqu'un qui fait des vidéos, c'est pareil, de faire des vidéos vraiment sur ton sujet de fond, ce que les gens sont venus apprendre chez toi, et puis de en faire aussi de temps en temps où voilà, c'est juste les choses que toi t'as envie de faire, quoi. Souvent ça te rapporte moins, ça intéresse une minorité des gens, mais souvent les gens les plus impliqués, et puis bah, ça permet de te faire plaisir aussi, quoi. Moi j'aime bien varier ça, tu vois, souvent je vais faire par exemple dans le cadre des formations, les périodes où j'en fais beaucoup, souvent si j'ai eu une, deux, trois formations qui ont vraiment cartonné, tu vois, genre le truc qui a vraiment vraiment fait beaucoup de ventes, bah après je me permets de faire un truc plus créatif, tu vois, enfin un truc plus expérimental, on va dire, où bon, tu t'en fous un peu finalement s'il y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés, mais au moins t'as fait quelque chose qui te fait un peu plaisir aussi, quoi.
Et bah, du coup on a pas mal parlé de tes objectifs, de comment tu réussissais finalement à garder le cap et puis comment tu restais motivé. Comment est-ce que tu te fixes encore des objectifs, ou alors est-ce que tu es vraiment, ou tu te dis un peu semaine par semaine, tiens, j'ai envie de faire ça, je teste ça, comment ça marche pour toi?
Alors, ça dépend quel type d'objectif, en fait. Je pense qu'on a tous... Enfin, moi, j'ai un peu changé là récemment là-dessus, parce que j'avais envie de me détendre un peu et puis de viser. En fait, le gros problème qu'on a, nous, dans nos activités, c'est qu'on a le court terme et le long terme, en fait. Et quand tu es créateur de contenu, ce que tu fais pour avoir des bons résultats à court terme, souvent, va aller contre tes résultats à long terme. Je te donne un exemple. Tu fais une grosse promo ou un mail, tu sais, chez moi, les mails qui cliquent le plus, c'est les mails de trois lignes. C'est un truc avec un, tu mets un chiffre dans le titre, tu mets un truc super, qui, comment dire, super mystérieux, tu vois, où les gens sont curieux, ils ont envie de cliquer, un truc de trois, cinq lignes. Et là, les gens cliquent comme des fous, ils vont acheter tout ça. Maintenant, si tu fais ça tous les jours, il y a un moment, les gens, ils ouvrent plus tes emails, enfin, ils sont plus intéressés et ça sert plus à rien, quoi. Donc, si tu veux, après, tu peux faire des emails de 30 km de long où tu leur racontes des trucs de fous qui vont changer leur vie. Mais c'est pas les emails sur lesquels ils cliquent le plus. Donc ça, c'est un exemple pour les emails, mais c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que tu as toujours un objectif à long terme qui est de créer quelque chose dans lequel, si tu as créé de la qualité, en fait, on s'en fout des ventes de la semaine, parce que tu pourras toujours, dans un an, dans trois ans, sortir n'importe quel programme, produit, tout ce que tu veux. Tu sais qu'il y aura des gens pour acheter parce que les gens, ils sont à fond dedans, en fait, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas perdre... Il y a André Chaperon qui disait ça, un Américain qui parle d'emailing. C'est vrai pour les emails, je pense que c'est vrai pour tout. Il disait l'objectif d'un bon email, le premier objectif, c'est justement le long terme, c'est la qualité à long terme. Et le deuxième objectif, c'est de faire des ventes cette semaine, tu vois. Mais il ne faut pas que le deuxième, il passe après le premier. Et le problème, en fait, des objectifs en termes de résultats financiers, c'est que, évidemment, ils sont nécessaires, tu vois. Mais si tu vois que ça, tu ne vois pas le long terme. Et il y a beaucoup de gens qui se sont grillés avec ça. On le voit aux États-Unis, moi, des gens que je suivais il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui se sont complètement grillés, quoi, parce qu'ils ont fait que du court terme. Donc je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. C'est à chacun de le trouver, mais moi aujourd'hui j'ai plus, évidemment on a tous un chiffre en dessous duquel si on tombe, tu vois, on commence à paniquer, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous ce chiffre là en termes de vente, que ça soit par semaine, par mois, où il y a un peu les alarmes qui clignotent et tu dis, bah, ce que je fais c'est pas forcément, tu vois, le top, il faudrait peut-être que je fasse évoluer le truc. Mais finalement, et je pense que plus on a passé d'années dans le machin, plus on se rend compte que ce qui compte le plus, c'est le long terme, parce que c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si tu fais pas beaucoup de ventes cette semaine, mais si bah, t'as donné des choses aux gens qui leur ont changé la vie, ou qui les ont fait réfléchir, ou qui les ont, t'as approfondi leur relation que t'as avec les gens, en fait. Et du coup, moi, mon objectif aujourd'hui, il est beaucoup plus sur le long terme. Enfin, c'est vraiment ça, parce que je suis un peu fatigué de courir aussi après les trucs à court terme. Et je me rends compte que beaucoup de mes clients, de mes meilleurs clients, viennent d'il y a des années, quand j'avais un blog qui s'appelait Web Marketing Junkie, qui n'existe plus aujourd'hui. Et que quand tu fais vraiment de la qualité, les gens, ils sont encore là des années après. Et donc, du coup, que t'es beaucoup plus serein, en fait, parce que t'es pas là à stresser, que t'as pas eu assez de vues ou assez de likes cette semaine, en fait. Enfin, tu vois, c'est juste un indicateur parmi d'autres, quoi. Et le premier objectif, c'est ça, c'est vraiment ça. Le deuxième objectif, bah, c'est d'essayer de faire du mieux que tu peux avec ce que tu as, du coup. Alors, je pense que la meilleure façon de bosser, c'est choisir un format ou, tu vois, un peu comme, j'aime bien le concept de segment qu'ils ont à la télé, tu sais, dans une émission, il y a plusieurs segments, tu peux avoir une interview, après tu peux avoir un machin. Nous, on a des segments dans une activité de création de contenu. Et on peut les voir un peu comme ça. Donc, créer un truc qui soit vraiment quali, tu vois, vraiment qualitatif, que les gens vont bien aimer en matière de segment, de format, format, tout ça, mais vraiment un truc bien. Et après, te demander avec ce format-là, comment est-ce que je peux faire pour gagner le mieux ma vie possible avec ça, en fait, tu vois. Mais si tu te dis comment faire le plus de ventes et que tu t'arrêtes là, tu vas faire de la merde et c'est le truc qui va durer un an. Et après, les gens, ils seront soit tous désinscrits, soit ils vont te haïr. Enfin, t'auras pas de fans, en fait, quoi. Tu vois, t'auras rien sur le long terme, quoi. Ouais. Moi, c'est un peu ma façon de voir ça.
C'est vrai que finalement, même dans les mails, je trouve qu'il y a, un peu... on parle beaucoup de mets un super objet dans ton mail, puis comme ça, il y aura des gros taux d'ouverture et tout ça. Je trouve que finalement, ce qui compte peut-être encore plus, surtout sur le long terme, moi, ma liste commence à avoir un petit peu d'âge, c'est que il faut en fait que les gens ils cliquent juste parce que c'est toi. En fait, ils s'en foutent du titre.
Ouais.
Ils voient juste Jean Rivière et ils ouvrent. Point. Ils ont même pas besoin de réfléchir. Et ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est le côté marque en fait. C'est ils savent que quand ils ouvrent ton mail, ils vont trouver des trucs qui les intéressent et peu importe que l'objet ce soit un truc hyper sexy ou pas, ça va le faire quand même. Toi, justement, ça fait longtemps que t'es là. Tu as parlé aussi des clients qui revenaient et tout ça. Et puis, je pense que c'est certainement lié aussi à une certaine continuité et un peu au branding dont on parle souvent. Est-ce que tu fais des choses consciemment pour ça ou est-ce que t'es vraiment, tu te dis, bon, je fais comme bon me semble et puis ça va créer une cohérence à la fin?
Alors, au début, oui, mais après, je pense que quand tu as trouvé tes marques, en fait, c'est important que ton branding, il corresponde à ta personnalité, parce que sinon, tu seras jamais... En fait, si on était des bons acteurs, on ferait un autre métier, tu sais, on serait acteur, en fait, on ferait des films.
C'est clair.
Mais ce que je veux dire, c'est que tu seras toujours meilleur dans ton propre personnage que dans le personnage d'un autre, tu vois. Donc il y a un moment où évidemment tu vas pas tout mettre sur la table, je veux dire il y a peut-être des aspects de ta personnalité que t'as pas envie de faire ressortir parce que ça va faire peur aux gens ou j'en sais rien, ouais. Tu vois, mais le truc c'est de capitaliser quand même sur ta personnalité à toi, tu vois, de travailler sur tes atouts, tes avantages, parce que si tu mets un masque, tu vas jamais être vraiment très bon, quoi, puis ça va te demander un effort beaucoup plus important que si t'es juste toi-même et t'es juste détendu, tu viens comme tu es, quoi. Je trouve, et ça c'est un truc moi qui m'a fasciné, je l'ai répété mille fois là ces derniers temps parce que ça m'a vraiment fait un gros déclic, et parce que c'est lié, tu sais, moi pendant des années je disais aux gens en vidéo, si vous faites de la vidéo ou même du texte ou n'importe quoi, mais faut arrêter de chercher à apprendre à parler, quoi, à parler en public, à parler en vidéo, en fait, parce que quand tu es avec ton meilleur ami, même les personnes les plus réservées, les plus timides, quand elles sont dans le bon contexte, un contexte où elles se sentent en confiance, par exemple, avec leur meilleur ami, ben, c'est des personnes passionnantes, en fait. Et donc, c'est des gens qui savent être passionnants, tu vois. C'est juste de s'adapter au contexte et d'enlever la peur, mais t'as pas besoin d'apprendre à faire des phrases, en fait, tu vois. Et moi, je m'en suis rendu compte, là, récemment, avec toute cette histoire de confinement, où on a passé, enfin, beaucoup d'entre nous, et moi, j'en fais partie, on a passé beaucoup de temps sur des trucs de vidéoconférence, enfin sur Skype, sur Zoom, sur FaceTime, avec des proches, avec des amis, avec des collègues, avec des partenaires, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, tu vois, enfin au lieu de sortir le soir, on faisait ça. Tu te rends compte que moi j'ai discuté pas mal avec des gens qui avaient peur, vraiment peur de faire des vidéos ou qu'on n'aurait jamais faites, et qui pourtant étaient géniales sur des trucs FaceTime machin, tu vois, ou Zoom. Pourquoi ? Parce que c'était pas le même contexte et elles portaient leur attention sur les autres plutôt que de porter son attention sur quelle tête j'ai, est-ce que le truc y passe et tout, quoi. Et du coup, tu te rends compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont capables de s'exprimer. C'est juste qu'il faut travailler sur le contexte et sur son anxiété. Mais il faut juste apprendre à être soi-même dans ses contenus, c'est tout. Et il y a pas, c'est plus désapprendre même des trucs, tu vois, des réflexes instinctifs de se protéger et tout, que d'apprendre à parler ou que d'apprendre à être passionnant, parce qu'on est tous passionnants. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des créateurs que je connaissais pas du web, donc j'avais jamais vu genre leurs vidéos ou ce qu'ils créaient. Je les ai rencontrés, on a bu un café, ces gens-là étaient passionnants, fascinants. Et du coup, je suis allé après voir leurs vidéos et j'ai pas eu l'impression de voir la même personne. Alors moi, ça m'arrive aussi. Je veux dire, on fait pas toujours les meilleurs contenus, mais c'est vrai que de temps en temps, tu vois, tu te dis, mais si cette personne-là, elle était vraiment elle-même et elle essayait pas de mettre un masque pour se protéger, les trucs, ils seraient mille fois mieux, en fait, quoi, tu vois, et tu verrais la vraie personne que toi, t'as rencontrée 5 minutes avant et qui t'a pris un café et qui était effectivement passionnante, quoi. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui en sont capables que les personnes qui croient qu'elles en sont capables, déjà. Et ensuite, il n'y a pas besoin de créer un personnage qui n'existe pas. Cadrer ta personnalité, ouais, prendre le meilleur dans ce que tu as, tu vois, pour le montrer, oui, et puis pas forcément tout montrer. montrer, mais on a beaucoup de enfin tu vois, ton personal branding doit être corrélé à qui tu es vraiment, parce que sinon ça va être compliqué, quoi.
Ouais, puis même je me dis en plus pour moi c'est un des trucs qui m'inquiétait le plus au départ, parce que j'étais pas forcément hyper naturel en vidéo, j'essaye de l'être de plus en plus, et voilà, d'être à la cool. Mais en fait, le truc aujourd'hui qui me satisfait énormément, c'est quand je rencontre des abonnés, c'est qu'ils me disent, en fait, c'est la même personne. Genre en podcast, en vidéo, en vrai, c'est le même Lucien que je vois. Et ça, je trouve que, je me dis, je sais pas, tu vois, les mecs qui sont sur Instagram tout le temps, là, qui prennent des super photos, qui montrent que leurs dents sont bien alignées, etc. Je sais pas comment ils font quand ils sortent dans la rue, tu vois, parce que ça se trouve, ils sortent dans la rue, et puis en fait, ils ont un bouton ce jour-là, et je sais pas, ils mettent une casquette, ils mettent des lunettes pour pas qu'on les reconnaisse, sinon ils ont peur d'être démasqués, tu vois. Je pense que ça a une anxiété au quotidien que, en fait, t'as pas envie de vivre, tout simplement.
Ouais, je pense aussi que ça, on l'a un peu trop vu. Enfin, je veux dire, tu vois, on l'a vu et revu et revu et revu. Et finalement, tu vois que. Enfin, moi, je suis convaincu que les gens, ils cherchent de plus en plus d'authenticité. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de voir, par exemple. Et j'ai des amis pour qui c'est pareil. Enfin, genre, on en a marre de voir ça. Enfin, on veut voir autre chose que ça, quoi. Et tu as. Moi, j'avais fait des recherches, là, récemment, sur la communication, enfin, sur l'utilisation des réseaux sociaux par les auteurs. C'était un sujet j'ai fait plein de super découvertes.
Pas les auteurs de livres.
Ouais, des auteurs de livres, mais pas forcément que des auteurs, mais des gens qui sont pas, tu vois, qui sont pas forcément des influenceurs, des modèles, tout ça, mais qui ont des trucs intéressants à raconter, en fait. Et tu te rends compte, effectivement, que la plupart des auteurs, c'est des gens qui sont plus âgés que la moyenne, qui sont moins physiquement esthétiques que la moyenne, et qui pourtant, pour certains, ont vraiment des gros, gros, gros fans et se débrouillent extrêmement bien sur les réseaux sociaux. C'est juste que c'est d'autres façons de le faire qui souvent vont être d'ailleurs, effectivement, beaucoup plus authentiques. C'est-à-dire beaucoup plus de live, d'ailleurs, enfin, je sais pas, les formats sont un petit peu différents, ce sont des formats plus longs souvent aussi, parce que dans les formats très courts, c'est coupé à chaque seconde, tu perds un peu cette authenticité là aussi. Enfin, et du coup, très souvent, ça va être des formats plus longs, plus posés. Enfin, je sais pas, c'est différent, mais il y a tout un monde qui existe autour de gens qui sont pas, tu vois, l'influenceur machin avec 5 filtres sur chaque photo et qui sont des gens normaux. Tu regardes, il y en a plein, pas que des auteurs, hein, il y en a plein. Ouais.
Mais c'est vrai que je trouve que on est toujours un peu pris dans un conflit interne, et puis finalement peut-être qu'il se résout en créant deux types de contenus. C'est que quand tu veux élargir ton audience, tu te dis qu'il faut que tu aies des contenus. Bah, par exemple, si tu es sur YouTube, il y a des règles dans YouTube, et si tu fais des types de contenus qui sont pas trop admis sur YouTube, c'est pas ça qui va te permettre de faire croître vraiment ta chaîne. Oui, ça va faire croître peut-être l'engagement de certaines personnes et tout, mais personnellement, je le vois, en fait, soit je fais une vidéo très authentique, mais qui est très courte. Du coup, là, ça passe. Par contre, dès que tu pars dans la longueur et que même si tu racontes un truc hyper intéressant, les gens n'accrochent pas forcément et c'est OK, en fait. Faut juste que... Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir justement deux types de contenu. C'est un type pour un peu accrocher l'attention des gens, un peu comme si c'était une pub, finalement. Et après, si tu veux les faire rentrer dans ton monde, les convaincre, leur montrer que en fait, il y a plus que simplement le personnage de la vidéo. Là, tu peux faire d'autres types de contenus. Et ça peut être, bah, je sais pas, les mails, des podcasts aussi, ça peut être intéressant. Ou des types de contenus comme ça. Comment tu fonctionnes sur ce point-là?
Alors, moi, ça me fait penser à un truc que disait Antoine BM. T'en parlais tout à l'heure d'Antoine BM. Il disait, enfin, maintenant, je crois qu'il a un peu... Enfin, je peux pas parler pour lui, tu vois, je sais pas comment il bosse. Mais à un moment, il disait qu'il faisait certaines vidéos pour les nouveaux, tu vois, des vidéos d'acquisition pour parler des gens qu'il connaissait pas, et des vidéos de... Je sais plus comment il appelait ça, mais pour entretenir un peu les fans, tu vois ce que je veux dire. Donc, qui étaient un peu différentes. Et je pense que je trouve ça vraiment, vraiment pas bête. Moi, je suis pas le pro de la vidéo. J'en ai fait à une époque où c'était pas du tout la même chose. Genre, nous, on était les premiers, tu vois, un peu sous les cocotiers avec une GoPro toute pourrie, les gens étaient fous dès qu'ils voyaient un cocotier. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ça c'est un métier, quoi, de faire des vidéos. Enfin, c'est devenu un métier à part entière, et il y a des gens qui sont très 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 bons là-dedans. Et moi, je suis très 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 loin d'être le meilleur là-dedans. Mais effectivement, je pense qu'il y a plusieurs types de contenus à faire, et tu vas pas faire les mêmes pour les personnes qui te connaissent bien, de la même façon que tu vas pas parler de la même façon à ta famille, ton meilleur ami, que tu vas parler à un inconnu dans la rue avec qui tu vas essayer de faire connaissance. agence ou dans un bar ou dans une boîte ou n'importe quoi avec qui tu vas essayer de faire connaissance, quoi. De la même façon que tu vas pas parler de la même façon avec la personne avec qui tu es en couple que avec quelqu'un que tu as jamais rencontré et que tu vas croiser dans un club ou quoi et que tu essaies de séduire, en fait. Donc c'est évident. Et je pense qu'il en faut des deux, tu vois. Je pense vraiment qu'il en faut des deux, peut-être des choses un peu plus accessibles et puis des choses un peu plus posées, un peu plus pour un peu plus profond, enfin tu sais, un peu plus pour les connaisseurs, ouais. Quoi. C'est important aussi ça, tu vois, d'entretenir un peu la communauté. J'ai lu un bouquin là-dessus qui parlait de ça, d'utiliser un peu des codes, des, tu sais, un peu comme des private jokes et tout, c'est des ouais, blagues qu'il ouais. y a que tes fans qui comprennent, des... mais ouais, faut faire les deux. Après, c'est vrai que YouTube, c'est un format qui est quand même excellent. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu le dernier format qui reste où tu peux te faire autant découvrir par des nouvelles personnes, en fait, grâce aux recommandations. Ouais. Donc c'est vrai que c'est le format idéal pour parler à de nouvelles personnes. Et puis après, ce que font beaucoup, c'est que sur l'email ou sur les réseaux sociaux sur lesquels tu es moins présent. Enfin, souvent, tu vois, chez beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de créateurs qui vont avoir un réseau social ou une plateforme sur laquelle ils font de l'acquisition, c'est-à-dire il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et puis d'autres, en fait, où il y a beaucoup moins de monde, mais en fait, c'est que les fans, tu sais, ou les clients, ou c'est vraiment les, tu vois. Moi, je sais que c'est mon cas sur Facebook, sur Instagram, c'est vraiment que des... Enfin, Instagram, il commence à y avoir des nouveaux un peu, mais à la base, c'était vraiment que les clients, les fans, la petite famille et tout, tu vois, donc on était un peu entre nous. Et puis, moi, à l'époque, je faisais plus l'acquisition sur YouTube. Maintenant, j'ai mis ça un peu en pause pour faire autre chose, pour faire notamment de la pub parce que ça marche bien. Mais peu importe, finalement, l'idée, c'est d'avoir une source d'acquisition et puis après des choses sur lesquelles tu vas entretenir la petite famille et puis donner des infos. Voilà. Et puis ça, c'est pas stressant à faire, tu vois, c'est détendu, quoi.
Et tout à l'heure, tu avais parlé de plein de. Enfin, que tu faisais plein de tests et que tu aimais faire des tests. Là, tu as parlé de la pub que tu fais en ce moment. J'ai vu aussi que tu avais un forum carrément. Ce qui, aujourd'hui, c'est en 2020, tu dis quoi, un forum? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Qu'est-ce qui déclenche les tests? Tu vois, c'est comme le truc de regarder des comptes d'auteurs. C'est vachement intelligent de se dire, tiens, bah, je vais regarder d'autres types de personnes. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui déclenche tes tests et qu'est-ce qui fait que tu les continues ou pas? Enfin, là, je vois dans le cas du forum, par exemple.
Alors, cette année, c'est vrai, enfin cette année, depuis un peu plus d'un an, en fait, moi, j'ai vécu là 5 années en Asie, puis je suis rentré en Europe en mars dernier, donc enfin pas mars là, mais le mars encore d'avant. Et depuis que je suis rentré en Europe, je me suis mis, parce que j'avais plus grand chose à faire, du coup, parce qu'il y a moins de choses à faire ici, tu vois, enfin je sais pas, enfin la vie que j'avais là-bas était plus remplie, on va dire. Et du coup, je suis revenu à une vie un peu plus normale, tu vois, un peu plus. Puis tous les gens que je côtoie, en fait, ils bossent, tu vois, parce que là-bas, c'était plus des vacanciers, des retraités, enfin c'était plus voilà. Donc il faut bien que tu t'occupes. Donc du coup, je me suis mis à tester tout ce que j'avais jamais testé, en fait. Donc il y a plein de trucs qui n'ont pas marché, il y a plein de trucs qui m'ont pas plu, il y a des trucs que j'ai gardés, que j'ai améliorés. Et puis ça, j'ai un peu fait le tour maintenant. Et là, je suis en train de simplifier, donc de revenir à l'essentiel et à ce qui me plaît le plus. Mais c'est vrai que cette année, j'ai testé énormément, énormément, énormément de choses. Moi, j'aime bien, tu vois, moi, je suis jamais convaincu d'un truc tant que j'ai pas testé. Et même le modèle que j'ai, de temps en temps, j'ai besoin de tester d'autres trucs à côté pour voir si c'est vraiment le truc qui me correspond toujours le mieux, en fait. Enfin, je suis pas tranquille tant que j'ai pas testé, tu vois. Après, souvent, c'est pour faire face à un problème. Je te donne un exemple. Par exemple, quand je me suis mis à faire des emails beaucoup plus fréquents, donc pas toujours quotidiens, mais beaucoup plus fréquents, bah, quand tu fais ça, tu rencontres un problème évident qui est que tu as des désinscriptions tous les jours. Donc, si tu calcules combien tu as de nouveaux inscrits, combien tu as de désinscrits, si tu es dans le négatif tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème. Ton truc, il va mourir au bout d'un moment. Donc, tu as besoin de meilleures sources d'acquisition. Donc, du coup, moi, ça s'est m'est arrivé. Donc, je me suis mis à chercher des sources d'acquisition. J'en ai trouvé certaines qui n'étaient pas les meilleures parce que ça apportait beaucoup de gens, mais que ces gens-là n'achetaient pas. Ensuite, j'ai fait évoluer le truc. Ensuite. Enfin, tu vois, jusqu'à trouver... moi, j'aime bien avoir des problèmes, essayer de trouver les solutions. Enfin, c'est un peu ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat. Et au final, si tu en testes un certain nombre, tu vas forcément trouver. Tu sais, c'est comme souvent, moi, on m'a souvent demandé quel est le meilleur outil pour X ou pour Y. Par exemple, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser MailChimp pour ses mails ou Aweber ou ceci ou Drip ou ActiveCampaign ou quoi. Ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser pour vendre des formations Podia ou Thinky ou comment dire Teachable ou machin ou truc en fait. Mais en fait, tu te rends compte que moi, j'ai tous testé ces trucs-là et en fait, celui que j'ai choisi, il ne va pas être forcément l'idéal pour quelqu'un d'autre parce que j'ai choisi sur des critères qui me sont personnels. C'est-à-dire, tu vois, je les utilise d'une certaine façon, donc j'aime bien qu'il y ait tel truc à tel endroit. Mais en fait, tu te rends compte que tous ces outils-là ont des essais gratuits, donc les gens peuvent essayer. Je veux dire, ça ne coûte rien. Tu prends l'après-midi, tu en essayes trois, tu vois ce qui est le mieux pour toi. Et c'est pareil pour tout. Si tu vois quelqu'un faire un truc et tu dis, ouais, c'est trop bien, faudrait que je fasse ça, machin, mais il faut le faire, en fait. Tu le fais en petite échelle, sans que ça te coûte trop de temps, sans que ça te coûte trop d'argent, juste pour voir, en fait, est-ce que ça marcherait pour moi, est-ce que ça marcherait chez moi. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de façons de bosser que il y a des choses aujourd'hui, moi je le vois avec mes collègues ou avec les gens avec qui je discute souvent, qui marchent pour l'un et qui ne marcheront pas pour l'autre, en fait. Parce que ça dépend de si tu es meilleur en vidéo, si tu es meilleur en texte, si des fois tu comprends même pas, en fait, pourquoi est-ce que tel modèle marche mieux chez l'un, alors que, par exemple, moi, sur les formations hebdomadaires ou les sorties de formation courantes comme ça, je n'ai jamais rien trouvé qui a mieux marché pour moi que ça. Et j'ai pourtant des amis qui vendent des grosses formations ou des trucs et ça cartonne pour eux de fou. Et moi, quand j'essaye, ça marche pas, tu vois, parce que peut-être que je suis habitué ou plus formaté pour faire ça. Mais il faut, tant que tu l'auras pas essayé, tu sauras pas, en fait. Donc le truc c'est ça, c'est en plus c'est passionnant, tu vois, c'est comme je sais pas quand j'étais gosse, il y avait des kits de chimie là ou de trucs où tu faisais des expériences, ça faisait des liquides bleus qui faisaient de la fumée ou des trucs, ben c'est pareil en fait, c'est un labo le truc, tu peux expérimenter, tu peux tester et puis tu as des réponses rapides, c'est ça qui est intéressant, c'est que les réponses elles arrivent sous quelques jours la plupart du temps. Donc c'est fascinant et c'est comme ça que tu apprends et au fur et à mesure des années, bah tu découvres ce qui marche le mieux pour toi dans tous les domaines quoi. Et puis au final, tu as vraiment tu vois ton système, ta boîte à outils, ton truc que tu maîtrises bien et puis t'es bien quoi. Je pense qu'il faut pas hésiter à tester plutôt qu'à reprendre en bloc tu vois ce que le modèle de quelqu'un, parce que il y a toujours des paramètres que tu connais pas. On en parlait au tout début du podcast aussi, il y a le contexte, c'est-à-dire quel est le rêve de cette personne-là, peut-être que cette personne-là a pas du tout les mêmes rêves que toi, peut-être qu'elle veut même pas la même chose pour sa vie et son quotidien que toi. Donc il faut essayer puis il faut voir ce qui colle le mieux à ton rêve à toi et à ce que tu as envie de faire pour toi quoi. Moi j'adore tester, j'adore ça moi, c'est ma vie. Ouais.
Il y a un truc justement que tu as pas mal fait à un moment, c'est le podcast. Si aujourd'hui tu devais relancer un podcast de zéro, donc tu crées une nouvelle chaîne de podcast, quoi, quel intérêt tu verrais pour ton business et comment tu t'y prendrais pour que ça marche au mieux possible pour toi?
Alors, le podcast, moi, j'ai adoré en faire. Le souci du podcast, c'est que c'est un peu difficile à lancer parce qu'il faut qu'on te découvre. Donc, je pense que la meilleure solution pour se faire découvrir, c'est d'inviter des gens, en fait, comme on le fait là, par exemple, de faire des collaborations, d'avoir des invités. Moi, j'ai fait beaucoup de podcasts où je parlais seul parce que j'aime bien raconter mes trucs aussi. Enfin, aujourd'hui, je le fais plus à l'écrit. Mais faire un truc avec des gens pour faire découvrir des gens, enfin, c'est ce qui marche le mieux et peut-être avec une thématique particulière. Tu sais, il y a plein une thématique, un angle particulier. Il y a une émission, c'est pas vraiment une émission, c'est un truc sur YouTube où ils invitent comme ça des personnes connues et ils leur font tester des sauces épicées. Je sais pas si t'as vu ça. C'est genre les sauces les plus épicées au monde. Et c'est rigolo, ça ajoute un contexte. Après, tu as par exemple les interviews dans les taxis ou en voiture. Il y a plusieurs émissions. Il y en a une française et il y en a aux US aussi. Tu as, je sais plus ce que c'est, Celebrities in Cars Drinking Coffee ou un truc dans le genre. C'est des célébrités voitures qui boivent du café. Et tu vois, là, tu as un angle en fait qui est différent. Ça peut être un truc complètement débile, hein, comme de la sauce épicée, mais il y a un angle et ça permet peut-être de voir. Parce que le problème, c'est surtout à mesure, et là, on l'a vu avec le confinement, je veux dire, il y a eu tellement de collaborations, de live, d'interviews, de trucs que les gens, moi j'essaye à chaque fois d'apporter un truc un peu différent, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire plus ou moins la même chose, enfin tu vois ce que je veux dire, puis au bout d'un moment quand on a fait 1000, et le fait d'avoir peut-être un angle différent, tu te demandes cette personne-là que tu connais, comment elle va réagir à ça, qu'est-ce qu'elle va raconter dans ce cadre-là, tu vois ce que je veux dire, ça peut être une bonne idée. Moi je l'ai jamais fait, mais c'est juste une idée qui me vient comme ça, qui peut être une bonne idée. Et puis après, pour faire connaître un podcast, ouais c'est ça, c'est les collaborations. Mais les podcasts, ça reprend. Enfin, ça a jamais aussi mieux marché. Si tu regardes sur Google Trends, qui est un outil, je te dis peut-être des bêtises, faudrait vérifier, mais c'est Google Trends, c'est un outil qui te peut, Trends, hein, comme une tendance en français. Ouais. qui te permet de voir l'évolution de l'intérêt des gens pour un sujet. Donc, en fonction de si les gens cherchent beaucoup ce sujet ou pas. Donc, par exemple, si tu cherches coronavirus, bah, tu vas voir l'évolution du truc, qu'avant personne ne le cherchait, que t'as un gros pic et qu'aujourd'hui, peut-être les gens le cherchent moins. Si tu cherches des termes comme intelligence artificielle, comme Bitcoin, c'est-à-dire tous ces types de termes, cryptocurrency et tout, qui ont eu un gros buzz dans le, tu vois, tout le monde en a parlé à un moment et puis après beaucoup moins ou plus ou moins. Enfin, tu vois, où ça a varié, tu le vois. Et les podcasts, c'est le truc bon père de famille, c'est-à-dire que c'est, si tu compares à, je sais pas, à n'importe quel réseau social, tu tapes, tu sais, tu peux comparer, donc tu tapes podcast, puis tu tapes Snapchat, par exemple, ou tu tapes podcast, et puis tu tapes, je sais pas, même Instagram ou n'importe quoi, tu vas voir que c'est vraiment le truc le plus stable, c'est vraiment le truc bon père de famille, tranquille, enfin le truc qui risque pas de disparaître, un peu comme l'email, en fait, si tu veux. Pourquoi ? Parce que c'est multiplateforme, c'est-à-dire que c'est pas lié à un site en particulier, de la même façon que l'email, ça doit être le premier truc qui a été inventé sur le web, enfin je veux dire, tu vois, pour communiquer entre personnes, il n'y a pas plus vieux que ça dans ce qu'on utilise aujourd'hui, et pourtant il n'y a aucune chance que ça meure, étant donné que c'est décentralisé, si tu veux, et c'est le cas aussi des podcasts, et du coup ça a de l'avenir, puis tu peux les rediffuser ou les adapter à toutes sortes de plateformes, mais c'est super les podcasts. On a des bons résultats aussi, moi j'ai eu des bons résultats même en vente, hein. Je faisais des podcasts de vente, et c'est surprenant que ça donne des très bons résultats. Moi, en fait, je pense que c'est logique dans le sens où quand tu regardes une vidéo YouTube, ta vidéo, elle est en compétition avec plein d'autres vidéos, tu vois, qui sont dans les recommandations, tout ça. Donc, et puis avec, je sais pas, ton si t'es à côté, t'as ouvert Instagram ou machin ou truc. Donc, t'es tenté de sortir de ça pour aller voir un autre contenu. Ton contenu est en compétition. Alors que souvent, un podcast, les gens vont l'écouter en fond, mais ça les empêche pas d'aller voir les photos de la cousine ou du voisin ou du truc sur Instagram pendant ce temps-là, tu vois. Donc, vu que tu fais souvent quelque chose d'autre en même temps, ce contenu-là n'est plus en compétition. Et donc, du coup, t'as le temps de rester beaucoup plus longtemps. Et ça permet aussi d'aborder, dans un monde aujourd'hui quand même, on est sur des formats qui sont de plus en plus courts, donc du coup de plus en plus dans ta face, putaclic, tout ça, parce qu'il faut maintenir, faut capter l'attention, mais l'attention tu l'as pas pour longtemps. Là, vu qu'on l'a pour longtemps, c'est à peu près le seul format avec les livres en fait où tu peux aller vraiment au fond des choses et rentrer dans le fond d'un sujet et finalement apprendre beaucoup plus de choses que dans un machin qui fait, je sais pas, 5 minutes ou qui est vraiment très très court et où à chaque seconde t'as peur de perdre l'attention de la personne en fait.
Merci pour cette réponse. Là, c'est intéressant. C'est vrai que je suis allé sur Google Trends du coup pour regarder le mot podcast. Et c'est vrai qu'il y a quand même une très très belle progression, mais qui malgré tout n'est pas. C'est pas la progression de coronavirus. C'est pas un truc qui explose d'un coup.
Ah bah
mais,
oui, quand non, même, non. C'est,
dans l'année dernière, ça a quand même énormément progressé. Ça a multiplié quand même par deux depuis juin dernier les recherches là sur. Ouais.
Ah, c'est fou. Hein.
Ouais, je pensais même pas que c'était à ce point-là, mais ça progresse quand même pas mal en ce moment. Donc voilà, petite aparté sur les podcasts. Toi, on en a déjà parlé un petit peu, t'as un côté un peu solitaire des fois, où t'as envie d'être tranquille chez toi, puis de pas te faire emmerder. Mais par contre, malgré tout, t'as quand même beaucoup de connexions. Je veux dire, tu connais plein de monde, tu vois des gens et tout. Comment est-ce que tu gères cette vie sociale de l'entrepreneur qui souvent est un peu compliquée ? Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que les événements, comme ce qu'on avait fait à Cluj, sont vachement appréciés parce que finalement, ça te fait la famille virtuelle, mais en vrai, quoi.
Ouais, après moi j'ai toujours eu un petit groupe, j'aime bien avoir un petit groupe de collègues ou d'amis qui font, tu vois, avec lesquels on fait un peu la même chose, on peut échanger des infos et on se fait des petites, des vacances ou des week-ends ou des trucs de temps en temps, quoi, et ça fait vraiment du bien. Ouais. Par contre, moi je suis quelqu'un qui préfère, avoir moins de personnes dans mon réseau mais les connaître mieux, c'est pas que dans l'entrepreneuriat, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Ça veut pas dire que j'aime pas les gens, hein, c'est juste que je préfère passer plus de temps avec des personnes que je connais bien. Ça n'empêche pas de rencontrer de nouvelles personnes et qu'elles fassent partie aussi du réseau, si tu veux. Mais voilà, donc si tu veux, après tu rencontres toujours plein de monde. C'est souvent des amis qui te présentent des amis, Et il y a de plus en plus de gens super intéressants d'ailleurs dans ce milieu aujourd'hui. Il y a vraiment un gros renouveau là depuis quelques années. Je sais pas, peut-être depuis 2-3 ans. Il y a un énorme renouveau avec toute une nouvelle génération là dont certains font vraiment des trucs bien et apportent apporte un peu du vent frais dans le, bah t'en fais partie d'ailleurs, et qui apporte un peu du vent frais dans le machin. Et il y a eu une grosse pause à un moment, parce que tu sais qu'il y a eu, je sais pas, il y a genre une dizaine d'années, il y avait il y avait le blogging en fait. Après, tout le monde s'est mis sur YouTube, et après, il y a une sorte de trou où t'avais moins de nouveaux en fait. Et aujourd'hui, là, il y a une sorte d'appel d'air là depuis quelques années, avec plein de nouvelles personnes, et c'est génial quoi. Après, faut continuer. Parce que souvent, comme c'est un métier dans lequel il n'y a pas vraiment de barrière d'entrée, c'est que si tu veux monter une boulangerie, par exemple, faut que tu fasses un prêt, faut que tu aies un diplôme de boulanger, il y a du boulot, tu vois, pour monter le truc. Que dans nos métiers, souvent, t'as besoin d'avoir un téléphone et un compte YouTube, tu vois. Donc, c'est un peu comme les filières, les études où t'as un concours d'entrée qui est difficile. Et il y en a d'autres où n'importe qui peut rentrer, mais à la fin, l'examen est difficile, tu vois. Et nous, on est un peu dans un truc où n'importe qui peut rentrer, mais c'est, tu vois, au bout d'un certain temps où la sélection se fait, quoi. Alors que dans les business traditionnels, c'est plus un concours d'entrée. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut continuer. Ça veut dire aussi que la persévérance, c'est probablement la compétence. Je sais pas si on peut appeler ça une compétence. Si, c'en est une, en fait. La compétence qui compte le plus, en fait. Parce que même quelqu'un qui fait des trucs qui sont pas, tu vois, ouf, honnêtement, on a tous fait des trucs qui sont pas ouf. Surtout quand tu commences, les premiers trucs que tu fais, ils sont pas ouf. Donc, il faut continuer. Moi, je dis aux gens, j'ai vraiment envie d'encourager les gens là qui se lancent aujourd'hui. En fait, vaut mieux faire des trucs pas ouf et de continuer, tu vois, en progressant tous les jours, que de faire un truc ouf et après de se brûler les ailes, de faire un burn-out et de tout arrêter, parce que ça sert à rien du coup, quoi. Voilà.
C'est clair que même là, je me suis un peu intéressé au podcast récemment et j'ai vu de bah du coup il y a plein de chaînes de podcasts, et le nombre de chaînes de podcasts où il y a genre deux épisodes avec une magnifique intro, genre tout est parfait, tu vois, dans le podcast, mais sauf qu'il y a que deux épisodes. La personne a dû passer 15 jours à créer tout le machin, l'environnement, tout ça, et après créer deux épisodes, puis ça a pas tenu. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, surtout que la durée, c'est tellement récompensé, parce que comme tu le dis, c'est difficile de durer, c'est pas difficile d'entrer, mais du coup la récompense, elle est pas pour rentrer, la récompense, elle est pour ceux qui durent et pour ceux qui font du travail, et ça fait longtemps. Et je pense que ça donne aussi vachement confiance aux gens, en fait, de dire bah voilà, moi ça fait 5 ans, moi ça fait 3 ans, moi ça fait 2 ans, moi ça fait 10 ans que je suis là. Moi c'est pareil, mes clients en général, c'est des gens qui m'écoutent depuis longtemps, en fait, qui sont là et se disent putain, mais le mec il a pas abandonné, il est toujours là, il est toujours dans la même ligne de conduite. Et j'ai envie de faire pareil, en fait. Et naturellement, comme ça, ça se fait.
Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire, quoi.
On arrive dans les questions de la fin du podcast que j'aime bien poser à tout le monde. Et la première, c'est est-ce que tu as un modèle dans le monde qui t'inspire particulièrement? Une personne, Antoine Pétavin avait un peu détourné la question en disant, une personne, si tu pouvais échanger ta vie avec la sienne, est-ce que tu le ferais?
Changer ma vie, non, parce que c'est juste des morceaux, tu vois, qui me plaisent chez quelqu'un et chez quelqu'un d'autre. Moi, les gens qui m'ont beaucoup inspiré à l'époque, chez quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris, c'est Dan Kennedy, qui est mort maintenant, qui était un papy du marketing, mais en fait, qui faisait notre métier déjà avant que le web existe, en fait. Enfin, notre métier c'était notre métier, en fait, et qui a inventé beaucoup de choses, et qui était un peu l'une des références, moi, l'une des personnes qui m'a le plus inspiré, pas du tout sur le côté mode de vie, tout ça, mais sur le côté, sur les idées, en fait, sur notre métier, et sur la création de contenu, la création d'une sorte de communauté autour de ce que tu fais. Et puis, après, on a tous des petites inspirations, mais moi, j'ai pas vraiment un gros modèle, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas vraiment, il y a souvent un truc qui m'inspire, par exemple, je sais pas, à l'époque de Casey Neistat, ça m'avait donné envie de faire des vlogs, bon, qui n'ont jamais ressemblé ni de près ni de loin aux vlogs de Casey Neistat, tu vois, en qualité, mais ça m'a donné envie, comme le bouquin La semaine de 4 heures a donné envie à plein de gens de partir sous les cocotiers, de devenir nomade, tout ça. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, c'est pareil, c'est des trucs un peu vieux, enfin un peu, je sais même pas si ça existe encore, le blog Zen Habits de Léo Babota sur le minimalisme. Il y a des bouquins aussi qui m'ont beaucoup inspiré, comme Millionaire Fastlane, comme How I Found Freedom in an Unfree World de Harry Brown, et tous les bouquins d'Harry Brown. Il y a parfois des découvertes comme ça qui te retournent un peu le cerveau, qui bousculent un peu tes certitudes et qui font un peu partie de ton qui viennent rentrer dans ta philosophie personnelle, quoi. Mais il y a pas vraiment genre une personne et je me dis faut que je sois comme lui, quoi. Non, ça y a pas. Mais il y a plein, et j'essaye toujours de trouver. C'est un peu comme une drogue, en fait, le prochain truc que tu peux intégrer et qui vraiment va te fasciner, tu vois. Et voilà.
Ouais. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose jamais ou presque jamais et que tu aimerais qu'on te pose vraiment plus souvent?
Oula, c'est difficile comme question ça. Écoute, je sais pas, peut-être, je sais même pas si c'est une question, mais souvent les gens se font des idées sur les personnes qui font du contenu en ligne. C'est-à-dire que tu as l'impression que, parce qu'il y a, je sais pas, il y a vraiment un rapport particulier à, moi je suis pas quelqu'un de célèbre, tu vois, mais à quelqu'un que tu vois derrière l'écran et qui est encore pire pour les célébrités dans le sens où les gens croient que, enfin, il y a un truc même qui est fascinant. Moi j'ai arrêté de le faire à un moment parce que ça devenait malsain. Je trouvais pour moi que c'était malsain. Je juge pas les gens qui le font parce que moi-même je l'ai fait, mais pour moi je trouvais que c'était malsain. C'est quand tu montres trop de ta vie en fait, de ton quotidien, les gens veulent tellement devenir comme toi qu'ils en finissent par vouloir acheter les mêmes marques de slip que toi ou les même, je sais pas moi, ou aller dans les mêmes hôtels que toi. Je veux dire, enfin, moi ça m'est arrivé pour les slips. Je te raconte pas de conneries parce que moi j'ai acheté, enfin non, mais c'est pas pour ça. C'est parce que j'achetais des marques, tu vois, chez Uniqlo, des trucs confortables, machin. J'avais toute une théorie autour de ça, des vêtements, tu vois, surtout pour l'Asie, pour les climats tropicaux. Bon, donc ça peut se comprendre, mais je sais pas. Tu vois des gens, par exemple Sébastien Tissier là qui a organisé des lives récemment là, qui est un pote d'Asie, il a vendu une liste des Airbnb, c'est pas un secret, hein, je le dis, c'est pas un secret. Il a vendu une liste des Airbnb dans lesquelles il a fait ses vidéos parce que les gens voulaient habiter là où ils avaient vu les vidéos, tu vois. Et c'est pas une célébrité qui fait des millions de vues en fait. Et tu te rends compte en fait qu'il y a un moment, faut se détendre quoi. Enfin, tu vois, évidemment, tu vois, c'est agréable parce que tu vois, t'es content que ton truc ait de l'impact et ça permet aussi de faire des ventes et tout. Mais il y a un moment où en fait, les gens ils sont comme toi, enfin, ils sont normaux. Enfin, en fait, d'ailleurs, tu t'en rends compte si tu les rencontres en fait. C'est qu'il y a une sorte de distance qui est créée par cet écran où on a envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça se passe aussi, on en parlait tout à l'heure sur Instagram, machin, tout ça, mais où en fait ces gens-là, ils ont aussi des problèmes. Enfin, tu vois, ils ont peut-être des problèmes même que tu imagines pas. Ils ont peut-être, tu vois, des soucis de famille. Ils ont peut-être des galères. Et il y a personne pour qui la vie est parfaite. Je veux dire, c'est pas parce que t'as trois photos qui sont jolies et que t'as un petit vlog machin que la vie des gens est parfaite. Et il faut arrêter de vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre à un moment, dans le sens où t'as vraiment des choses que tu peux prendre et t'approprier. Mais vivre la vie de quelqu'un d'autre, de laquelle tu vois, évidemment, dans nos contenus, on met que les meilleurs aspects. Je veux dire, tu vas pas mettre le truc quand t'as, je sais pas, il s'est passé un drame dans ta vie ou quand t'as eu un énorme problème. Enfin, tu vois, je sais pas, tu vas pas filmer, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, du coup, tu vois une image qui est juste une partie et qui peut t'inspirer, mais il faut en rester là, que ça t'inspire, que ça te donne envie de faire des choses, quoi. Mais pas, je pense que le c'est là où c'est le plus difficile de réussir, c'est d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, parce que tu deviendras de toute façon jamais comme cette personne, tu deviendras jamais cette personne. Par contre, tu peux te créer ton chemin en t'inspirant d'une partie, d'un truc. Moi, j'aime bien, en fait, ça finit un peu comme un puzzle ou comme des Lego, où chaque pièce, c'est des choses que tu as pu prendre chez quelqu'un d'autre ou qui t'ont été inspirées par quelqu'un d'autre et que tu as transformé à ta manière pour la faire rentrer dans ton puzzle à toi, quoi. Voilà.
Mais c'est vrai que ça me semble important de le préciser parce que je pense que la première personne que tu as suivie vraiment longtemps en ligne et que tu rencontres, mais quand je dis rencontre, c'est pas genre un autographe dans un bouquin, c'est tu la rencontres et vraiment tu discutes avec ou alors tu la vois dans un contexte qui fait que ça dévoile un peu plus de qui elle est. Je pense que c'est vachement important de faire ça parce que ça te permet vraiment de rendre compte que vraiment c'est des humains parce que les gens aiment bien le dire, mais je trouve qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on est, enfin, tant qu'on n'a pas fait cette première rencontre avec un de nos mentors en ligne, c'est vrai qu'il y a ce côté malsain qui reste. Donc, rencontrez vos mentors en ligne le plus vite possible pour
Bah ouais.
pouvoir arrêter ça, tout simplement.
Ouais, c'est
Tu as
ça
déjà
qu'il faut
parlé un
faire.
petit peu de lecture tout à l'heure. Donc, ça, je pense que ça va rentrer dans la réponse à cette question. C'est comment est-ce que tu progresses?
Bah moi j'aime bien chercher en fait, tu vois, mais même chercher pour chercher sans forcément avoir de problème à résoudre, tu vois. Donc en lisant par exemple, à d'autres périodes en regardant un peu ce qui se fait, ce que font les gens, tout ça, et puis enfin aussi bien sur les idées que sur les techniques si tu veux. Donc je suis assez curieux en fait, voilà. Et je pense qu'on est tous très curieux dans ce métier. Enfin, il faut être curieux en fait, sinon c'est difficile quoi. Faut vraiment avoir une curiosité de vouloir tous les jours découvrir des trucs nouveaux quoi. Mais si t'aimes ton sujet,
Et
t'es
maintenant,
naturellement curieux, je pense.
ouais, c'est ça. Je pense que si ton sujet, c'est un sujet qui te passionne, ce qui est plutôt recommandé, parce que, bah, comme on le disait, il faut durer. Donc, bah, durer sans passion, c'est compliqué. Mais ouais, du coup, là, pour les gens qui sont toujours là, qui sont encore là maintenant, je ne sais pas après combien de temps exactement, où est-ce qu'on peut te retrouver et pourquoi les gens devraient venir chez toi?
Alors, bah, sur rejoinslemouvement.com, comme ça se prononce, et j'envoie. Alors maintenant, j'ai changé un peu mon système pour transformer mes emails en une sorte de mini-journal quotidien pour les créateurs, dans lesquels il y a à la fois des techniques qu'on peut recopier, des plans, des techniques, soit des plans de contenu, soit autre chose, et puis des idées, des choses qui inspirent, des choses aussi pour les gens qui n'ont pas le temps de lire beaucoup de bouquins et puis qui veulent avoir des déclics, qui veulent avoir des trucs qui leur font, qui les secouent un peu, qui les font réfléchir. Et donc ça, c'est sur rejoinslemouvement.com. Voilà, donc tout est là.
Top, bah, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent?
Bah ouais, moi j'ai envie de dire lancez-vous, parce qu'il y a toujours des gens qui suivent peut-être depuis des années parfois, des chaînes YouTube, des podcasts, des bouquins, des trucs, des créateurs, et qui rêvent un peu de se lancer, tu vois, qu'on rêve, ils voient les autres le faire à leur place et ils l'ont toujours pas fait, et on sait pas, peut-être qu'ils attendent d'avoir l'idée parfaite, d'avoir le truc parfait, mais faut pas le voir comme ça, faut faire un premier truc. Évidemment ça va pas être l'énorme succès, il y a peut-être 3 personnes qui vont voir le premier machin, mais on a tous commencé comme ça, et peut-être que parmi ces 3 personnes, il y en aura peut-être une ou deux qui deviendront plus tard des vrais fans, des clients, pourquoi pas. Et faut y aller, il y a rien de dramatique là-dedans en fait, et il faut le faire. Moi j'ai envie de dire à tous ces gens-là, tu vois, qui regardent un peu dans l'ombre là, de commencer à lancer leur truc, que ça soit du contenu, que ça soit autre chose en fait, mais on a tous des projets. Enfin, beaucoup de gens ont des projets et tu vois peut-être vont se monter la tête en regardant plein de trucs avant de commencer, avant de passer à l'action. Et quand tu as commencé à passer à l'action, bah toutes les choses que tu regardes, que t'écoutes, que tu lis, bah tu vas pouvoir enfin les appliquer, parce que tu auras déjà un contexte, tu auras déjà une boîte, tu auras déjà un projet dans lequel tu vas pouvoir les appliquer, et du coup bah tu vas progresser tout le temps en fait, au lieu de rester regarder ce que font les autres. Et c'est pas très dur en fait, il suffit, le premier pas c'est ça, c'est de faire un premier contenu, tu vois. Et s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui nous écoute aujourd'hui et qui pouvait faire, si c'est de la création de contenu, ne serait-ce que son premier contenu avant ce soir, même un truc tout pourri, on s'en fout, ou si c'est autre chose que de la création de contenu, de passer le premier coup de fil, de faire le premier truc, tu vois, de monter sa boîte d'auto-entrepreneur en ligne, on peut le faire en ligne, quoi, je crois, en une, tu vois, en genre moins d'une heure, je sais même pas comment ça marche le truc, mais de faire un premier pas, tu vois, un truc significatif, sa première vidéo sur YouTube, son premier coup de fil pour préparer un événement, son premier truc, c'est un machin qui, c'est un peu le pied dans la porte, le truc, tu vois, une fois que c'est lancé, et ça peut être le moment de le faire pour beaucoup de gens peut-être qui hésitent et qui remettent ça toujours à plus tard, pourquoi pas aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça le mot de la fin.
Merci Jean.
Et ben merci à toi Lucien.